Seigneur et bonsoir. Voilà, j'espère que vous vous portez bien dans le Seigneur. Hein? Voilà, donc je ne vais rien dévoiler, si ce n'est, je ne vais rien, mince. Ah, vous savez, je cherche mes mots, je commence bien, vous voyez. Enfin, de nouveau, voilà. Heureusement que vous avez un pasteur qui est là et qui est compatissant, en vous disant que c'est le thème du Saint-Esprit, on est d'accord, hein? Donc, lorsque votre pasteur Emmanuel m'a demandé si je pouvais apporter donc, une étude sur le baptême du Saint-Esprit, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'avant d'être baptisé du Saint-Esprit, alors que c'est quelque chose qui est écrit, c'est une promesse pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont passés par la repentance, qui ont accepté Jésus comme sauveur et maître, c'est une attente et c'est souvent des frustrations pour ceux qui ne sont pas baptisés. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous ce qui peut nous empêcher d'être baptisés du baptême du Saint-Esprit. Quel est l'obstacle? Alors, j'ai trouvé quelques exemples, mais vous pourriez très certainement en rajouter d'autres. Hein? Alors, j'aimerais commencer en faisant cette première lecture dans l'Épître des Actes, le livre des Actes, chapitre 2, verset 1, pour nous rappeler que c'est une promesse. Que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un mérite, c'est une promesse, et c'est un gage que Dieu nous donne, qui donne à ses enfants. Et je crois que nous sommes tous invités à recevoir, et peut-être que parmi nous, et je ne veux même pas le savoir parce que ça ne me regarde pas, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont frustrés de ne pas être baptisés du Saint-Esprit, alors que cette pensée puisse vous aider. Et puis, peut-être que tout à l'heure, quand on priera, c'est votre rendez-vous à vous. Hein. Alors, acte 2, versets 1 à 4, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, à Arles, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Vous êtes tous assis ? Ah oui, c'est... On est vraiment dans le contexte. Hein. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, la première chose, nous le voyons ensemble, là, un texte que nous connaissons tous, hein, les Pentecôtistes, ils le connaissent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En fait, pas un seul n'est passé à travers les mailles du filet. Tous remplis. Alors, la question, ça c'est un texte de base, parce que c'est le thème. Le texte de base nous dit ces choses, mais maintenant nous allons voir ensemble pourquoi des gens ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi préciser une chose, nous avons dit que ce n'est ni un salaire, ni une récompense, ni un mérite. Mais en même temps, ça ne fait pas de nous des gens qui sont supérieurs à ceux qui ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, on peut être baptisé du Saint-Esprit et avoir, excusez l'expression, une vie de patachon. Alors, pas le jour où on est baptisé, mais si on n'entretient pas ce que Dieu nous a donné, eh bien, on peut dériver. D'accord ? Et avoir des frères et des sœurs qui ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit, et qui pourtant, parce qu'on va le voir ensemble, hein, pourquoi, sont peut-être plus proches du Seigneur que ceux qui le sont. D'accord ? Alors déjà, ça c'est important de le lire, à mon sens. Voilà, Ésaïe 59, versets 1 et 2, il est écrit, alors je ne perds pas de temps à vous attendre, hein, parce que je sais que vous avez, vous êtes équipés comme un martigue. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, ça va piquer un peu, parce qu'en fait, ce qui peut justement nous arrêter, ou plutôt arrêter l'action de Dieu dans notre vie, eh bien, c'est tout simplement le péché. Il faut bien reconnaître que le péché peut-être embellie à nos yeux. On peut trouver ça comme étant un péché ou pas, enfin, et puis on peut y mettre la culture. Frère, moi je suis de telle culture, alors bon, chez nous c'est comme ça. Sauf qu'il faut se souvenir, frères et sœurs, que la Bible, elle est universelle pour tous les siècles, et que qu'on soit espagnol, qu'on soit gitan, qu'on soit indien, qu'on soit américain, qu'on soit français, allemand, tout ce que vous voulez, eh bien, la parole, c'est la parole. Dieu ne va pas s'adapter pour les Africains en disant, on peut passer l'éponge sur certaines choses, ou pour les Américains. Ou... Non, non, la parole, c'est la parole. Ma culture, elle peut venir après. Si, par exemple, les Espagnols, ils aiment la paella, eh bien, tant mieux, moi aussi. Si les Pieds-Noirs, ils aiment le couscous, moi aussi, c'est tant mieux. Mais bon, c'est sûr que ça ne va pas froisser notre relation avec le Seigneur. Mais enfin, vous comprenez, je mets un petit peu d'humour pour comprendre que parfois, à cause de notre culture, voilà, et ça peut aussi s'appeler le péché. Ça peut s'appeler aussi le péché. La première chose qu'on peut voir ensemble, c'est dans 1 Pierre, quand il est question de ne pas rendre le mal à son prochain. Ça fait partie des obstacles, à mon sens, qui peuvent nous empêcher d'être baptisés du baptême du Saint-Esprit. Hein, 1 Pierre 3, verset 9. « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter les bénédictions. Amen. » On est tous confrontés, enfin plus ou moins, à des gens qui peuvent être désagréables, injurieux, des gens qui peuvent même calomnier ou des gens qui peuvent dire des choses sur notre compte qui sont fort déplaisants. Si on a une première nature qui a tendance à ne pas se les laisser marcher sur les pieds, ça peut vite tourner en vrille. Hein. Et ainsi, on n'est plus reconnu comme étant enfant du Seigneur. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de paix. D'accord ? Et si nous partons sur nos grands chevaux parce qu'on a du tempérament, et là c'est comme la culture, on peut avoir notre tempérament. Je rappelle que l'apôtre Pierre, c'était un homme qui avait du tempérament. Voilà, je pense qu'il ne fallait certainement pas lui marcher sur le pied gauche en disant « j'en ai fait exprès, c'est tant mieux pour toi ». Je pense qu'il devait partir au quart de tour. Et nous avons tous un tempérament différent. Mais là aussi, mon tempérament ne doit pas venir empiéter la parole. Enfin, planter la parole. C'est la parole qui doit dominer sur moi et non pas mon caractère. Moi, frère, c'est comme ça. Content ou pas, moi, je suis franc. Au moins, c'est ce qu'on pense. Ben oui, mais s'il n'y a pas de sel et s'il n'y a pas d'amour, on blesse, on détruit les gens. Moi, une fois, à Martigues, on m'a fait « Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches ?» Bon, la première fois qu'on te faisait ça, bon, c'est dit des Méditerranéens. Bon, moi, je suis du Nord, voilà, mais voilà. Donc il s'est calmé, il s'est tellement calmé qu'il ne vient plus à l'église, c'est bien dommage. Mais parce que parfois on peut fuir plutôt que de régler ses affaires. Voilà. Donc ne rendez point le mal pour le mal, par le mal. Et une autre chose qui peut, vous savez, il y a des subtilités qui attristent le Saint-Esprit. Et puis, parce qu'on pense que ça ne va pas venir contrarier l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et on peut prier le Seigneur pour avoir le baptême du Saint-Esprit, parce qu'on reste dans ce contexte-là, hein, et Dieu ne pas répondre parce qu'on a des choses à régler dans notre comportement. C'est toujours dans le même livre, dans le même chapitre, mais c'est au verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, on est d'accord ? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et puis parfois on peut être très agréable avec les gens à l'extérieur, très gentil, et puis parce que c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est notre épouse, on est un peu plus... Mais oui, mais c'est pas parce que je suis le mari que je dois prendre ma femme pour ma bonne. Excusez, je suis un peu familier, mais au moins tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est ma femme que je dois avoir, vous savez, l'autoritarisme dans un couple, c'est pas ce qu'il y a de plus formidable. ma femme doit savoir que je l'aime, et le fait que ma femme soit soumise à son mari, que la femme soit soumise à son mari, ça n'a rien à voir de prendre sa femme pour un esclave ou une esclave. C'est se soumettre à son mari, ça veut dire se mettre à l'ombre de son mari, de se sentir aimé. Et quand on l'épouse se sent aimé de son mari, alors il n'y a pas de problème. D'accord ? Et voyez-vous, parfois on peut penser que le fait d'être un peu, d'être rustre avec sa femme, bon, c'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie, et puis c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, mais pas devant le Seigneur. Ma femme, c'est ma femme. Je dois en prendre soin. Comme je dois prendre soin de mes enfants. Vous savez, des fois, il y a des gens, il y a des hommes, ils me surprennent des fois. Enfin bon, des fois, moi, très honnêtement, des fois, j'ai l'impression vraiment d'être en décalage avec les autres. Je ne suis pas un être exceptionnel. Hein. Je ne suis ni un ange. Je vous donnerai le numéro de ma femme, si vous voulez. Vous comprendrez que je ne suis pas un ange. Mais des fois, je suis en décalage. Il y a des maris, ils vont dire, mes enfants, et ta femme, mes enfants. Ben moi, je suis désolé, je fais attention de ne pas faire ça, justement. Je dis, ma femme et mes enfants. Parce que si j'ai des enfants, c'est grâce à ma femme. Et si j'ai ma femme, c'est grâce à Dieu. C'est pour ça que Dieu doit être en premier dans notre vie. Amen. Donc, faisons attention dans notre relation avec notre mari. Mais enfin, ce n'est pas écrit comme ça, mais enfin, c'est aussi valable pour les épouses quand même. Je pense que c'est important que madame soit respectueuse à l'égard de son mari. D'accord ? Et puis, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Si mon mari ne s'est pas planté un clou, je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde. Oui, mais ça fait rire, mais vous savez, si ma femme ne sait pas faire cuire un œuf, je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde. Moi, si je sais, je vais lui apprendre. Vous savez, Joseph, quand il a su que Marie était enceinte, alors vous pensez bien que, il a pensé que sa femme l'avait trompé, il est écrit, il voulut rompre secrètement avec elle afin de ne pas la diffamer. C'est une histoire de famille. Donc c'est entre les conjoints. On ne doit pas dire certaines choses. Il y a un autre obstacle. Eh bien, c'est tout simplement notre chair. Ne cherchons pas plus loin. Nous sommes tous, mes frères et sœurs, en lutte et en combat avec celle-ci. Il faut bien reconnaître que la chair est quelque chose qui est difficile à gérer parce que c'est notre nature, notre vieille nature. Et notre nature nous attire vers les choses, vers le monde, plutôt que nous attirer vers Dieu. C'est sa tendance. Galates 5, verset 13, est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'apôtre Paul disait « Je me traite durement ». Afin de ne pas pécher. Il ne dit pas je traite les autres durement, mais je me traite durement. Je décompose la vie d'un être en trois phases. Il y a ce que j'appelle la vie publique. Nous avons tous une vie publique. Là, vous me voyez, bon voilà, c'est ce qu'on appelle une vie publique. Vous allez faire vos courses au supermarché, vous avez une vie publique, tout le monde vous voit. Il y a la vie privée. La vie privée, c'est quand on ferme la porte de la maison. Si vous m'invitez un jour chez vous, jamais vous me verrez en train de me déchausser, mettre les pieds sur la table du salon. Par contre, chez moi, je ne vous dirai pas si je le fais. Si, vous savez, c'est comme ceux qui vous disent « Faites comme chez vous, frère !» Oui, mais hé, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Hein. Donc ça, c'est la vie privée. Donc, quand je suis chez moi, j'ai ma femme, mes enfants, on fait... Voilà, on part en vacances, je n'ai pas besoin de dire à tout le monde où je vais, ça ne regarde personne, c'est ma vie privée. Et puis la troisième phase, c'est ma vie intime, avec moi-même. Et la seule personne qui sache ce que je suis en train de penser tout de suite, là, à l'instant, à moins que vous ayez une révélation, c'est le Seigneur. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous soyons vigilants quant à la chair. Les œuvres de la chair... sont contraires, nous dit la parole, à l'esprit. Marchez selon la chair, verset 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère. Tiens, parlons-en un peu de l'adultère. Oh, moi, j'ai jamais trompé ma femme, frère. Ouais, mais si j'aime la télé et puis que je vois les danseuses, et puis vous savez, maintenant c'est un peu la mode, mais, enfin ça fait longtemps que c'est la mode, les danseuses, elles dansent, mais enfin bon, elles ont un peu chaud. Hein. Elles ont plus chaud que les messieurs qui sont en train de chanter, ou alors les jeunes filles qui sont dans la rue. Enfin, je veux dire, la Bible me dit clairement, en fait, Jésus nous dit que celui qui convoite une femme dans son cœur, commet l'adultère. C'est valable aussi pour les dames, hein, à l'égard des messieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de parler, et on peut être l'homme le plus fidèle au monde. Vous avez compris que l'infidélité, c'est un péché, mais enfin, c'est tellement grotesque qu'on le sait. Hein, je vous le dis quand même, enfin bon. Non, mais je vous le dis parce que quelqu'un, une fois, est arrivé à l'église. Alors, le brave, il m'a écrasé comme bavardé parce qu'il parlait le grec, il parlait l'hébreu, et puis moi, je ne pouvais pas comprendre. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Bon. Enfin, il en imposait. Par contre, il partait du principe qu'on pouvait coucher avec quelqu'un avant le mariage. Mais enfin, bon, ouais, enfin, vous voyez, comme quoi on peut tordre le sens des Écritures. C'est extraordinaire. Hein, il y a des gens, ce sont des vrais manipulateurs. Mais devant le Seigneur, ça ne tient pas. D'accord ? Et donc, il est écrit, donc l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie, c'est important, c'est intéressant, la magie. Parce que nous, la magie, on pense tout de suite au médium, à tous ces gens-là. Sauf que je me suis intéressé à ce mot. Vous savez que le mot magie vient de pharma ou pharmakia, qui, vous avez compris, vient du mot, en français, pharmacie, qui est renvoyé originellement aux médicaments en général, mais finit par désigner uniquement les drogues. Qui est capable d'altérer les consciences et l'humeur. Bon, peut-être pas vous, mais peut-être les plus jeunes, un petit joint de temps en temps. Je ne fume pas. Je ne fume pas un paquet par jour, mais un petit joint de temps en temps. Pour me détendre. C'est un péché. Et ça vient nous freiner dans nos relations avec Dieu. Il y a un tas de choses qui, les animosités, les querelles, les inimitiés, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Il y a tellement de choses qui peuvent paraître banales, mais qui en fait, quand on fait ces choses, c'est un péché. Et on attriste le Saint-Esprit. Si demain vous êtes invité à un mariage, et vous mangez, ouais, et on fait tomber la chemise. Est-ce que vous croyez que c'est la place d'un chrétien? Moi, ça ne choque pas. Enfin, moi, ça me gêne, c'est l'image que ça donne, de voir des chrétiens en train de danser, de se dandiner. Parce que je les vois à l'église, et puis le jour, ça me fait bizarre. Mais moi, ça me... Parce qu'on ne les voit pas comme ça habituellement, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Bon. Enfin, il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas faire, quoi, quand même. Les excès de table, et les boissons. Ce n'est pas interdit de boire. Mais il y a boire et boire. Il faut bien reconnaître que parfois, il y a des chrétiens qui... On attriste le Saint-Esprit. Et on peut se donner, encore une fois, un tas d'excuses, un tas de raisons, ou essayer de se donner bonne conscience. C'est enregistré, là, ce que je vais dire, là ? Alors, tu le coupes tout de suite, s'il te plaît, tu reprends après, si ça ne t'ennuie pas. Je sais pourquoi je dis ça. Vous voyez, on peut faire dire tout et n'importe quoi à la parole. Je ne sais pas si la dernière fois que je suis venu, je dis des choses comme ça, mais la femme à la perte de sang a dit à Jésus toute la vérité. C'est écrit, hein, toute la vérité. Il faut être honnête avec soi-même. La parole de Dieu nous dit comme ça qu'il faut garder une bonne conscience et quelques-uns l'ayant perdue ont fait naufrage quant à la foi. Vous avez connu combien de frères et sœurs ici, qui ne sont plus ici? Et si c'est comme ici et comme ailleurs, enfin, comme ailleurs, ici, ça se passe la même chose ici, des fois, on pourrait faire au moins 2-3 cultes si tout le monde revenait. Et parce que ce sont des gens qui ont fait naufrage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accepté certaines choses dans leur vie. Être chrétien, mes frères et sœurs, il faut avoir beaucoup de courage. Être chrétien, ça n'a rien à voir avec « moi je suis protestant, moi je suis évangélique, moi je suis… » Ça, c'est des étiquettes. Mais mon cœur, être chrétien, m'engager avec Dieu, c'est quelque chose de dur, de difficile. La preuve en est, Jésus a dit « sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Lâche l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Une autre chose qui peut nous arrêter quant à recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous trouvons cela dans le livre de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Là, ça se corse. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. En fait, on peut demander pardon à quelqu'un sans le sentir, sans « je lui pardonne, mais bon, c'est fait, on n'en parle plus. » Et si on le fait avec son cœur, avec amour, c'est complètement différent. J'ai eu l'occasion, il fut un temps, il y a bien des années de ça, j'étais chauffeur de car. Et j'avais emmené des fans de l'OM. Alors, je les ai emmenés au vélodrome, et je n'avais pas le droit de rentrer. Et j'entendais les gens dans le vélodrome supporter les supporters, c'est-à-dire porter une équipe. Quand tout va bien, oh, puis alors quand ils mettent un but, voilà, c'est les meilleurs. Mais la même équipe, si la semaine d'après ils jouent, ils loupent leur but, ils loupent leur marche, leur match, c'est des ringards et ceci, cela. On peut le voir ainsi supporter. Supporter son frère et sa sœur dans l'Église. On a tous un caractère différent. Tous. Y en a qui ont un caractère plus affermi que d'autres. Enfin, je ne vous connais pas, moi, ici, donc voilà. Donc, y en a qui peuvent avoir un caractère plus affermi que d'autres. D'autres ont un caractère plus... voilà. Oh, tranquille. Oh, cool. Oh, c'est pas grave. Ta voiture vient d'être volée. C'est pas grave. Et puis l'autre, il est où ? Et parfois, il peut y avoir des frictions dans l'Église. Il peut y avoir des tensions dans une Église. C'est tellement vrai que le Seigneur ne tombe pas des nues en disant oh, « qu'est-ce qu'ils ont fait ? Aïe, 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 comment je vais faire pour relever la situation ? Vite, il faut que je donne un message sur le cœur de mon berger à Arles. » Non, il est écrit. Alors, c'est où ça ? Et si, verset 13, parce que ça peut arriver. En fait, le Saint-Esprit est en train de nous le dire. Vous vous rappelez que toute écriture est inspirée de Dieu. Et si, parce que ça peut arriver, c'est dommage, mais si, l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, etc., etc. En fait, avoir des tensions entre frères et sœurs, eh bien, vient attrister le Saint-Esprit. Et par voie de conséquence, on peut toujours attendre sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Rappelez-vous Marie, Aaron et Moïse. L'histoire nous dit qu'à un moment donné, Moïse a une femme qui est une Éthiopienne. Et puis, il y a eu des tensions dans la famille. Marie et Aaron, langage des signes, vous connaissez ? Alors, ils pouvaient... Mais Dieu, lui, l'entendait. Si Moïse n'avait pas entendu, Dieu avait entendu. Et à un moment donné, eh bien, Marie était atteinte de la lèpre. Et de mémoire, c'était pendant 7 jours. Le camp a été arrêté. à cause d'elle. Vous croyez, frères et sœurs, que dans une église, on peut arrêter la marche d'une église à cause d'une histoire? Moi, je le crois. Je tiens à vous rassurer. Je parle tout à fait librement. Votre pasteur ne m'a pas orienté devant Dieu, je vous le dis ça. Il savait que c'était mon thème, mais voilà. Mais je ne savais même pas que j'allais vous dire ça précisément. Mais pour dire, donc, détendez-vous. Ne m'attendez pas à la sortie. Hein, ça serait pas bien, vous ne seriez pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, hein, demain peut-être, attendez d'être baptisé. Non, c'est de l'humour. Mais voyez-vous, frères et sœurs, quand il y a des tensions entre frères et sœurs, on ne peut pas disposer un temps pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas bien soi-même et on attriste le Saint-Esprit. Et pardonnez-vous, réciproquement, c'est important. Ce n'est pas le tout de pardonner à son frère. Mais lui doit aussi me pardonner. Moi, je n'y crois pas dans les histoires quand il y en a un qui est complètement à 100% en tort. Je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Dans un couple, il peut y avoir des tensions. Mais dire que c'est que monsieur ou c'est que madame, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être 90% monsieur ou 90% madame, et puis 10% pour l'autre. Mais enfin, il y a forcément... Voilà. Mais il faut pardonner. C'est biblique. En fait, que ça nous plaise ou pas, il faut pardonner. Alors, je suis conscient qu'en haut de l'estrade, en ayant le micro, et je suis le seul à parler, et vous êtes là en train d'écouter... C'est facile à dire de pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici en se disant « S'il savait, le brave et le bien gentil nous dire ça, mais s'il savait ce que moi j'ai vécu... » Ah oui, je sais que c'est facile de dire « Il faut pardonner. » Même si on dit « La Bible dit !» C'est facile. En fait, pour pardonner de tout son cœur, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner du tout. Il y a le pardon d'ordre de la politesse. Et si en sortant, je vous bouscule, je vais vous dire pardon, mais je ne le dis pas avec mon cœur. C'est pas je suis peiné de vous avoir bousculé. Non, c'est instantané. On dit pardon parce qu'on nous a appris. Ça fait partie de la politesse, du savoir-vivre. Pardon parce que, bon, oui, en fait, je n'ai pas voulu vous bousculer, mais bon, voilà. Et puis, il y a le pardon qui a occasionné des tensions. Et comme dirait une sœur que j'ai connue, elle disait « Je te pardonne, mais pas tout de suite. » En fait, elle n'avait pas tout à fait tort. Elle était jeune convertie, mais elle disait ça avec humour, « Je te pardonne, mais pas tout de suite. » En fait, ce qui est merveilleux chez Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas de délai. Vous l'avez remarqué, ça? Dieu ne nous dit pas « Tu pardonnes maintenant. » Pourquoi? Parce que Dieu est bien plus sage que nous. Il sait qu'il nous faut du temps, parfois, pour pardonner. Mais il nous faut faire aussi attention. Afin que notre cœur ne s'endurcisse pas. Ensuite, Dieu ne nous dit pas, parce que là, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur pardon, parce qu'ils se disent, je pardonne, mais je n'arrive pas à oublier. Mais arrêtez avec ça. C'est écrit nulle part que Dieu vous demande de pardonner et d'oublier. Ce n'est pas écrit. En fait, il n'y a que lui qui le dit. Je pardonne et j'oublie. C'est super. Et comment arriver à pardonner? Parce qu'il y a des pardons, en fait, qui ne peuvent pas être donnés. C'est impossible. Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner. Comment il faut faire? Il y a des pardons qui sont... Où ça nous était impossible de pardonner. Et pourtant, Dieu me demande de pardonner. On peut prendre des exemples. Hein. Une mère de famille, mariée avec son cher étant depuis 15 ans, deux enfants, la maison, et puis monsieur, il claque la porte, il s'est trouvé une maîtresse. Il va y avoir des conséquences, hein. On vend la maison, bon ça c'est matériel, mais enfin ça fait quand même du mal. On vend la maison, mais nos petits, et puis moi. Et demander à la femme, à l'épouse, de savoir que son mari va dire à l'autre, « Oh ma chérie, oh t'as des yeux, oh. Viens on va au restaurant. » Enfin, peut-être qu'ils vont aller en Espagne en vacances et elle se dit, « Mais nous à cause de la maison, on s'est toujours privé, on n'a même pas fait ça, depuis qu'on a vendu la maison, il fait... » Demande à cette femme de pardonner. Sœur, il faut pardonner à votre mari. Mais c'est impossible. C'est douloureux. C'est criminel de dire ça à quelqu'un comme ça. Demandez au père de famille, il a vu son gosse, bien sûr, le petit, il a jeté le ballon par-dessus le portail. Le gars, il roule à fond la caisse. Il est saoul comme je ne sais pas quoi. Il ne sait plus faire la différence entre n'importe quoi et le gars, bah, il tue le gosse. À dire à ce brave chrétien, frère, il faut pardonner. Mais c'est impossible de pardonner. Alors comment faut faire? Bien, mes frères et sœurs, et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas baptisé du baptême du Saint-Esprit, parce que vous n'avez jamais pardonné. Et même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être même la personne avec qui vous avez eu un conflit est morte depuis des années, dans votre tête, alors la personne ne le saura pas, hein, puisqu'elle est morte, mais dans votre tête, vous êtes bloqué. En fait, le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est pour soi. C'est une porte de délivrance pour nous-mêmes. Alors comment faut-il faire? Il faut simplement être honnête et dire, Seigneur, il faut que je pardonne, mais tu vois, je n'y arrive pas. Alors accepter que Jésus, ça c'est le pardon, accepter que Jésus vienne guérir votre cœur. Et ce n'est que si vous acceptez que Jésus vienne guérir votre cœur, que vous arriverez à pardonner. Sinon, si vous essayez par vous-même, vous allez vous brûler les ailes, à un tel point que, à un moment donné, vous direz, mais j'y arrive pas. Vous pourrez lire un tas de livres de pasteurs qui ont vécu ceci, vécu cela, mais qui, ça va vous tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Vous savez, par exemple, si, des fois, les pasteurs peuvent commettre l'erreur suivante, c'est de se dire, de toujours tirer les gens vers le haut en disant, moi j'ai, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait, sans parler parfois de... moi je trouve que c'est bien que le pasteur puisse dire des fois ses échecs en restant sobre. Hein. C'est comme dans les bouquins, la biographie de tel pasteur, un tel, un tel, un tel. L'écrivain est toujours en train de tirer le pasteur vers le haut, disant, il a vécu ceci, il a vécu cela, mais on ne s'en sortira jamais. En fait, ça a effet contraire. Au lieu de nous tirer vers le haut, nous encourager, enfin vous, je ne sais pas, moi ça aurait tendance à me tirer vers le bas, en disant, j'y arriverai jamais. Vous comprenez? Or, la Bible, elle fait comme je viens de dire. Elle montre des personnages qui se sont loupés. Mais alors, j'aurais pas voulu être à leur place. Hein. Ils ont vécu des choses. Vous savez, quand on parle de David, Bathsheba, Goliath, et puis après, David, si on creuse pas un peu, on ne sait plus ce qu'il a fait. Hein. Vous savez que David s'est fait porter pour fou. Passé pour fou, il bavait auprès du prince philistin Achish. Il a fait tuer des autres, des personnes, pour pas qu'il y ait de témoins. Il avait du sang sur les mains, hein, le brave. À un moment donné, une histoire de famille, pas possible. Vous savez qu'il a eu plusieurs épouses. La fille, c'était Timna, ou Timna, je ne sais plus son prenom. Son demi-frère, je crois que c'était le demi-frère, a couché avec. Enfin, en fait, il l'a violé, quoi. Il l'a violé. C'était le frère de celle-ci, Absalom. Il a gardé ça secret. Il a rongé son frein. Parce que la vengeance est un frein aussi pour éviter de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a fait tuer son frère. Et lui-même a été tué. David a vécu des choses difficiles. Voyez-vous, frères et sœurs, la vengeance, l'amertume, la rancœur, ce sont toutes des choses qui nous arrête. Il y a une autre chose qui peut nous arrêter aussi, c'est la l'esprit de l'infériorité, le complexe d'infériorité. Ça y est, décidément, je suis en train de chercher mes mots. Hein. Regardez avec moi Exode 3. Il y a des gens qui sont dans les églises, ce sont de braves gens. Ils sont, enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont gentils, parce que les chrétiens sont gentils, bon, c'est normal. Il y a des païens qui sont très gentils. Hein. Hein. Mais je veux dire, ce sont de braves gens, de braves personnes. Ils ont des qualités et pourtant, ils ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit. On se dit, mais pourquoi? Ils ont une vie normale, ils font attention à leur vie, ils sont clairs avec le Seigneur et pourtant, ils ne le sont pas baptisés. Alors, Exode 3, versets 11 à 12, il est écrit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, etc., etc. Qui suis-je? En fait, on peut se poser la question, qui suis-je pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Les petits jeunes, les petites jeunes, là, pardon, là, pourraient se dire, mais nous, c'est une affaire de grands. Hein. Mais non, ce n'est pas une affaire de grand. Les jeunes filles, là, peuvent être baptisées du Saint-Esprit. Et puis, ceux qui ont les cheveux blancs peuvent se dire, « Oh ben moi, c'est trop tard. » Mais ce n'est pas trop tard. Vous savez que Dieu n'en a pas fini avec vous. Aujourd'hui, c'est justement peut-être le temps du départ, du commencement, du rendez-vous divin que Dieu veut vous donner. Qui suis-je? Et en fait, Dieu veut vous donner le baptême du Saint-Esprit, mais ça fait peut-être si longtemps que vous le refusez, peut-être inconsciemment. Et c'est certainement inconsciemment. Si vous dites, mais je ne mérite pas, parce que vous n'avez pas compris que Dieu ne cherche pas que vous méritiez quelque chose. Mais Dieu veut vous le donner. Simplement. C'est un cadeau, c'est une grâce. Alors vous vous cassez la tête, vous vous culpabilisez en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le cordon, le pasteur m'a dit de bien mettre le câblage comme il faut. Là, il n'est pas bien comme il faut. Oh, je pars et puis je reviens. Oh, il est pas... Je connais quelqu'un qui est comme ça. Scrupuleux, tellement peur de faire une faille. Mais il se rend malade, en fait, on n'est pas heureux comme ça quand on vit comme ça. Vous savez ce que Dieu répond à Moïse? Qui suis-je? Moïse, il dit ça. Alors Dieu, il dit, je serai avec toi. Enfin, en fait, c'est en décalage avec ce que Moïse est en train de dire. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. En fait, tu t'inquiètes pas. Laisse-moi faire. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas se sentir prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jérémie 1, versets 4 à 7. Jérémie 1, versets 4 à 7. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. En fait, je ne suis pas prêt, quoi. Tu m'appelles, mais je ne suis pas prêt. Et on peut mettre ça aussi, le convertir par rapport au, le mettre parallèle avec le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas prêt. Mais en fait, quand est-ce que vous allez être prêt? Qu'est-ce que vous attendez pour être prêt? Être prêt pour vous, c'est quoi? C'est quoi la définition d'être prêt pour vous? Oh frère, ne pas pécher, ne rien, ne pas dire, ne pas avoir de mauvaise pensée. Mais alors, je vais vous dire, mais vous n'y arriverez jamais. Attention, ce n'est pas une invitation à vous dire, peace and love, wouh! Le pasteur a dit, oh, pour passer par les eaux du baptême, wouh! Ne faites pas de votre liberté de laisser la chair agir à votre guise. Non, ce n'est pas ça. Combien de fois, qui c'est qui est les plus anciens, qui a plus de 30 ans de conversion là? Tous les autres, vous êtes des gosses, des petits. Relevez la main ceux qui ont plus de 30 ans de conversion, ça va vous tomber dessus, vous allez comprendre pourquoi je vous dis. Laissez bien la main levée. Depuis que vous êtes baptisé, combien de fois vous avez été obligé de revenir à la croix? Mais c'est la main, puis vous pouvez relever la main si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on a pris des choses à la légère. Je peux vous assurer que quelqu'un qui veut s'engager avec le Seigneur, j'ai bientôt fini, quand quelqu'un veut s'engager avec le Seigneur, eh bien, il va de tout son cœur. Mais il peut y aller avec tout son cœur. Il y a des failles, des faiblesses. Et Dieu le sait. Vous savez, quand il écrit que l'homme de Dieu est venu oindre David, à partir de ce jour, jusque dans la suite, il est question de quoi la suite? C'est la suite de sa vie. Avec tout ce qu'on a pu voir, enfin tout ce que vous verrez, si vous reprenez le livre de David, enfin Samuel, voilà, vous allez comprendre que, encore une fois, ce n'est pas un tremplin pour dire, ah bon, c'est bon, je vais tromper ma femme, je demanderai pardon au Seigneur. Ou alors je vais boire mes 6 litres de vin, et puis parce qu'aujourd'hui j'ai envie de wouh, puis je vais demander pardon au Seigneur. Non, mais c'est pas ça. Hein. Ça, c'est se moquer de Dieu. Il nous faut être rigoureux avec nous-mêmes, avec soi-même. En fait, on peut aussi refuser ou ne pas être baptisé du baptême du Saint-Esprit parce que Dieu sait aussi que ça va être un moyen pour nous de tomber dans l'orgueil. Ah, moi, le baptême du Saint-Esprit, les autres ne l'ont pas. Certainement qu'on n'a pas le même niveau. Moi, je le suis. Moi, heureusement qu'il y a des gars comme moi ici, parce que si le pasteur avec des. Si le pasteur avait que des chrétiens comme moi, oh, le pasteur serait. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme comme le reste des hommes. Je donne mon offrande, je jeûne deux fois la semaine. Je ne suis pas comme ces publicains. Quel orgueil! Quel orgueil! En fait, la parole nous enseigne qu'il faut regarder son frère supérieur à soi. Mon frère, il est là, ah, je le regarde différemment. Ah. Mais comme c'est la même parole et que lui, il lit exactement la même chose, il me voit supérieur à lui. En fait, on retombe dans le même niveau. L'orgueil, frères et sœurs, c'est un piège aussi qui nous empêchera d'être baptisés du baptême du Saint-Esprit. Craignons, plus nous nous avançons avec le Seigneur, plus... En fait, c'est ça le principe. Plus on avance avec Dieu, plus on a l'impression qu'on est indigne. Parce que plus on avance avec Dieu, plus on se dit, mais alors, je suis tellement loin. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous allez sur la route d'Albertville, en Savoie, vous allez voir Chamonix, un panneau qui vous indique Chamonix. Alors, vous êtes sur l'autoroute, faites attention à votre route. Vous voyez un petit personnage qui fait ça, vous regardez au loin, vous dites, Chamonix, elle est où? Le Mont Blanc, il est où là? Non, c'est pas Chamonix, le Mont Blanc plutôt. Le Mont Blanc, il est où là? Mais oui, le Mont Blanc, ça fait tellement ridicule, à des dizaines et des dizaines de kilomètres, c'est une centaine, ça paraît tellement. Mais plus vous allez vous avancer, je n'invente rien, hein, plus vous allez vous avancer vers le Mont Blanc, voilà. Et puis non seulement là, mais. Et en fait, eh bien, plus vous avancez, plus vous êtes comme ça. Et plus vous avancez, plus... Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Plus on s'approche de la présence de Dieu, plus on... En fait, aucun chrétien ne devrait être orgueilleux. Aucun chrétien ne devrait être orgueilleux. Aucun chrétien ne devrait avoir l'occasion de bomber le torse en disant, quand même, quand on est orgueilleux, c'est parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'est plus dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous apprend une chose. C'est, Seigneur, je ne suis pas digne. Je termine. Joël 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur Arles. Les chrétiens de Arles, c'est marqué comme ça, chez vous, non? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est ça la promesse, mes frères et sœurs. Alors, peut-être qu'en effet, vous êtes retrouvés dans certaines choses. En fait, on peut tous se sentir concernés. Et je vous invite, vous qui êtes baptisés du baptême du Saint-Esprit, de continuer à vous sentir concernés. Parce que ça s'entretient. Et vous savez, il y avait une chose que David craignait. Il avait vu un homme comme Saül qui avait reçu cette onction sur lui. Il avait vu ce même homme qui n'avait plus l'onction sur lui. C'était plus du tout la même personne. Eh bien, David disait comme ça en quelques mots à Dieu, « Ne me retire pas ton esprit. Que ce soit notre prière. Seigneur, garde-moi ton onction, ce que tu m'as donné, le baptême du Saint-Esprit, je veux le conserver. » Et quant à ceux qui ne seraient pas baptisés, dites, Seigneur, je viens simplement. Venez comme des enfants, simplement. Encore une fois, rappelez-vous, ce n'est pas un salaire que Dieu vous donne. Ce n'est pas une médaille. Ce n'est pas parce que vous méritez quelque chose ou parce que vous avez fait la preuve de quelque chose. Si ce n'est simplement, Seigneur, je veux être un homme obéissant. L'obéissance est préférable au sacrifice. Amen. Laisse la place à votre pasteur. Thank you.
On va prier. Notre frère nous a exposé plusieurs points qui peuvent aujourd'hui être un blocage. Mais rien ne vous empêche aujourd'hui de débloquer la situation. N'est-ce pas? Alors je vais tout simplement demander au Seigneur, dans sa grâce, de nous aider chacun d'entre nous à abandonner tout ce qui pourrait nous empêcher. Et après quoi, on va prier. Je voudrais inviter ceux qui sont dans l'attente, ceux qui ont le désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit à s'avancer. On va prier avec vous, mais ne restez pas en silence en attendant que quelque chose tombe sur vous. Ce n'est pas comme ça. Soyez dans cet acte de prière. Soyez dans la louange à Dieu. Et Dieu sera déversé dans votre cœur ce don merveilleux qu'il a promis à chacun d'entre nous. Amen. Alors pendant que je commence à prier, que ceux qui désirent qu'on puisse prier avec eux, ceux qui ont besoin d'être renouvelés, avancez-vous au fur et à mesure, on va prier avec vous. Le frère, il va prier, je vais prier, on va demander la grâce de Dieu. Et ceux qui aujourd'hui se sentent pas dans la nécessité peut-être de s'avancer, ne restez pas assis sur votre chaise à regarder ce qui se passe, mais priez, invoquez la grâce de Dieu les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons te prier. Seigneur, conscient que ce n'est pas par nos mérites que nous puissions, Seigneur, nous approcher aujourd'hui et te dire, Seigneur, mais c'est une grâce imméritée, Seigneur, aujourd'hui de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir, Seigneur, recevoir, Seigneur, tes promesses. Et Seigneur, pour cela, Seigneur, nous te prions et nous t'en supplions, Seigneur. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, dans ce jour. Seigneur, s'il y a des besoins de pardon, Seigneur, que ce pardon soit accordé. Et que ce pardon vienne transformer la vie de celui qui l'accorde, Seigneur. Merci encore, Seigneur, d'être celui qui lave de tout péché, Seigneur. Le cœur repentant. Seigneur, merci d'être celui encore qui relève, celui qui se sent pas digne, Seigneur. Seigneur, notre dignité est en Jésus-Christ, en personne d'autre. Et Seigneur, merci parce que ce n'est pas une question d'année de conversion, mais c'est une question de nous approcher de toi simplement, comme des enfants, Seigneur. Et Seigneur, merci encore d'être celui qui aujourd'hui accordera selon ta promesse, Seigneur, de donner à tes enfants, Seigneur. Nous aussi, nous voulons vivre cela. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore de renouveler, Seigneur, de renouveler la vie de l'Esprit, d'encourager ceux qui ont été peut-être blessés, ceux qui ont pendant des années, Seigneur, été attristés dans leur cœur, dans leur vie spirituelle, par le comportement des uns et des autres, Seigneur. Seigneur, voire même par le comportement des pasteurs, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, pour tout cela. Et viens dans ta miséricorde, Seigneur, encore aujourd'hui, agir, œuvrer, et à toi soit toute la gloire. Amen.